recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le Japon militariste a vraiment dû céder.
The Japanese have accepted our terms fully. That's the word we've just received at the White House in Washington. This is the end of the Second World War.
Et donc, en 1970, le Japon pourrait s'offrir le luxe d'avoir une armée moderne dotée de moyens nucléaires.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Des vents mauvais soufflent-ils depuis le Japon? Entendez quelque chose comme la tentation d'un retour à un militarisme qui, au XXe siècle, a si profondément marqué l'histoire de l'Extrême-Orient et bien au-delà. La capitulation d'août 1945, 4 ans après l'agression de Pearl Harbor contre l'Amérique et aussitôt après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, avait mis fin à une longue période de guerre menée au premier chef contre la Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis, une guerre qui avait porté une litanie de violences infinies. Le Japon, après sa défaite, avait accepté, au fil de textes durablement confirmés, de rompre avec ses temps antérieurs et de renoncer à tout usage de la force en dehors de ses frontières. C'était désormais le seul pays au monde qui avait affirmé, dans sa constitution élaborée sous l'occupation américaine, je cite, qu'il renonçait à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu'à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Il était proclamé, je cite encore, qu'il ne serait plus jamais maintenu au Japon de forces terrestres, navales et aériennes. Avec cette affirmation péremptoire, le droit de belligérance de l'État n'est plus reconnu. Or, voici que depuis peu, le gouvernement nationaliste de Shinzo Abe, sous l'effet des crises contemporaines et peut-être du temps qui a passé, fonde son autorité et ses ambitions sur une remise en cause éclatante de ce principe. « Japan is back », s'écrit-il. Est-ce donc un coup de tonnerre? Pierre-François Souéry, professeur honoraire à l'Université de Genève, étant un magnifique spécialiste de ce monde et de cette histoire, je l'ai convié pour que nous tâchions de considérer ensemble, à la lumière d'un passé infiniment violent, les sources, la dimension et les ressorts de cette possible résurgence dont les conséquences pourrait être considérable. Et pour commencer, écoutez cette étudiante japonaise qui est interviewée en 2001.
I myself has been to Singapore.
Moi, je suis allée à Singapour pendant un moment quand j'étais à l'école primaire. Et j'y ai appris l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et quand je suis revenue au Japon, j'ai été très étonnée parce qu'on n'en parlait pas dans les livres d'histoire. On ne parlait pas des gens de Singapour qui ont été tués et jetés à la mer. Mais le problème, c'est que beaucoup de Japonais ont la mauvaise idée de penser que s'excuser auprès des Coréens ou des Asiatiques s'agissant de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, c'est honteux. Je pense que l'éducation est empoisonnée au Japon par ce genre d'idées.
Pierre-François Souéry, bonjour.
Bonjour.
Cet entretien, je l'emprunte à l'émission Interception de Simon Tivol, qui avait été diffusé sur France Inter le 16 décembre 2001. C'était un reportage d'Alain Lefkovitch et de Frédéric Lavignette sur la manière dont le Japon fait face à son passé. Il m'a semblé que nous serions par là introduits tout droit au cœur de notre sujet d'aujourd'hui.
Oui, le Japon a un problème avec son passé, c'est du moins ce qu'on dit souvent. Il y a une sorte d'amnésie. À vrai dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Je pense qu'il y a des visions du passé au Japon, et que si amnésie il y a, elle est clairement du côté du gouvernement ou des conservateurs, qui sont un petit peu dans la même filiation que les gouvernements d'avant-guerre et de la guerre, car il n'y a pas eu d'épuration à ce niveau-là. Alors que les historiens, les chercheurs, les journalistes ont fait un travail considérable d'explicitation de ce qui s'était passé pendant la guerre. Après tout, c'est eux qui ont fait les études les plus probantes sur Nankin.
Nankin, il s'agit donc des
grands massacres qui ont lieu
perpétrés
par l'armée japonaise en 1937-38, qui ont fait des dizaines de milliers de morts au minimum, et autant de femmes violées, et également qui ont sorti l'affaire terrible de cette unité 731, qui était une unité donc de guerre bactériologique avec des expériences sur des êtres vivants, des cobayes humains. Donc il y a une sorte de différence et d'incapacité à faire la jonction entre ces chercheurs, ces journalistes qui font des enquêtes et qui ont montré l'ampleur des crimes commis par le Japon militariste au cours de cette période, et un refus de la part des autorités, du moins du parti gouvernemental, le Parti libéral-démocrate, à prendre en compte cette affaire, cette chose-là.
Peut-on à cet égard vraiment parler d'une mutation, d'une rupture de l'actuel Premier ministre, Abe ?
Bon, moi, je pense que Abe se situe dans une forme de continuité avec des personnages politiques de l'après-guerre. Mais le contexte politique a considérablement changé, évidemment, depuis quelque temps, avec d'abord la montée en puissance de l'économie chinoise, mais aussi de l'armée chinoise et des velléités agressives, notamment dans les mers du Sud. Il y a également, évidemment, la montée en puissance militaire de la Corée du Nord, qui n'est pas quand même un mince problème quand on est situé à quelques centaines de kilomètres des côtes coréennes. Il y a également, bien sûr, aussi la nouvelle donne liée à l'émergence du gouvernement républicain aux États-Unis et de Donald Trump.
Abe peut penser qu'il lui est loisible de s'appuyer sur je ne sais quelle connivence ?
C'est très difficile parce que Abe ne sait plus actuellement s'il peut vraiment compter sur les Américains ou pas en fonction des différents problèmes qui se dressent devant lui. Par exemple, lorsqu'il y a eu cette volte-face de Trump qui a décidé de rencontrer le Nord-Coréen Kim Jong-un, eh bien, les Japonais ont été les derniers avertis.
Mais parlez-nous de ce Premier ministre Abe, parce qu'il n'a pas surgi de nulle part. Alors, il est d'ailleurs d'une dynastie intéressante.
Abe Shinzo est un politicien japonais, donc on va dire de droite, voire même d'extrême droite.
Vous dites politicien parce que c'est en mauvaise part.
C'est un homme qui ne vient pas de nulle part, comme vous venez de le dire à l'instant. C'est un homme qui est issu d'une dynastie d'hommes politiques japonais, de politiciens japonais, depuis de nombreuses années. Son grand-père était lui-même Premier ministre du Japon dans les années 57-60. Avant, il était l'un des ministres du développement économique de la Mandchourie à l'époque de la guerre.
Oui, alors on rebondit jusqu'avant la période de la
défaite.
Donc
on retrouve des continuités et l'affaire serait sans importance après tout. Mais le problème, c'est que Abe dit partout qu'il voue une grande admiration pour ce grand-père.
Kishi
Nobusuke, qui fut donc Premier ministre en 57-60.
Donc on peut avoir le sentiment qu'il y a là un révisionnisme qui serait même presque teinté de négationnisme.
Alors, je continue, il y a cette histoire de filiation, bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'avant d'être Premier ministre, lorsqu'il était un député, à la fin des années 1990, Abe Shinzo a monté avec d'autres une association qui s'appelle la Nihon Kaigi, c'est-à-dire la Conférence du Japon, qui est une sorte de think tank, si vous voulez, qui a une vocation clairement révisionniste concernant notamment le rôle du Japon pendant la guerre. Et Abe était lui-même, par exemple, à la tête d'une association de députés qui expliquait, à qui voulait le savoir, que les femmes de réconfort donc, qui avaient été raptées par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale n'étaient qu'après tout que des prostituées et qui avaient été payées pour ce qu'elles faisaient, et que dans toutes les guerres, malheureusement, ce genre d'affaires existait, qu'il n'y avait pas donc à faire, de ce point de vue-là, une sorte d'autocritique de la part des autorités japonaises.
Il y a même eu un débat autour d'un monument qui aurait été construit pour rappeler le calvaire de ces femmes.
Oui, en face, qui a été construit en face de l'ambassade du Japon à Séoul, et qui, évidemment, était quelque chose de tout à fait intolérable pour les autorités japonaises.
Statuaire et politique, c'est un grand thème.
Et donc, ce Abe Shinzo, donc, avant d'être Premier ministre, avait pris des positions extrêmement dures dans le débat politique. Alors, évidemment, étant Premier ministre, il a été obligé un peu d'édulcorer tout ça. Néanmoins, il reste, très marqué par cette idéologie nationaliste, voire militariste, qui a toujours été puissante au Japon malgré la défaite et malgré les déclarations officielles concernant cette constitution pacifiste.
Je me rappelle avoir visité le sanctuaire de Yasukuni, qui est un lieu très révélateur de la fidélité d'une pensée nationaliste et où symboliquement certains premiers ministres vont au début de leur pouvoir et d'autres pas.
Alors ça, c'est encore une histoire épouvantable, puisque ce temple a été inauguré en 1869 pour honorer ceux qui étaient tombés au combat pour la restauration donc de l'empereur Meiji en 1869 à la suite d'une guerre. Et puis par la suite, c'est un temple Shinto. Hein, ce temple est devenu donc le cœur du. Finalement, c'est l'endroit où l'on vénère tous ceux qui, dans les guerres, sont tombés pour l'empereur. Là, avec des contradictions invraisemblables. Par exemple, les civils qui sont morts sur les bombes américaines au Japon ne sont pas honorés, pas plus d'ailleurs que les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki, ne sont pas honorés dans ce bâtiment. Par contre, des soldats coréens ou taïwanais qui ont été enrôlés dans le cadre, évidemment, de forces coloniales, eux, sans qu'on leur ait demandé d'ailleurs leur avis, sont vénérés dans le cadre de ce musée, enfin de ce temple, qui est à la fois un musée. Et donc on a là vraiment l'une des contradictions de ce système actuel japonais, qui a été largement épuré par les Américains, pour ce qui est en tout cas de l'armée et des forces économiques, les fameux Zaibatsu, les trusts japonais, qui ont effectivement été épurés à cette époque-là. Mais tout le personnel politique, tout le personnel de la bureaucratie de l'État, eux sont restés en place finalement, après la guerre.
À peu près comme en Allemagne, on a vu ressurgir dans les années 60 un chancelier Kissinger qui avait été un fonctionnaire nazi.
Voilà, tout à fait. Sauf que le principal représentant de ce qu'était cette idéologie nationaliste, à savoir l'empereur lui-même, lui n'a jamais été inquiété pour des raisons politiques liées à la situation du Japon dans l'après-guerre, à la situation des États-Unis dans le cadre de la guerre froide. Et donc, en fait, la plupart des Japonais ont cette réaction qui est assez simple, c'est que si les Américains estiment que l'empereur est irresponsable pour ce qui s'est passé, alors pourquoi moi, ancien soldat ou fils de soldat, devrais-je moi-même me considérer comme responsable de ce qui s'est passé, puisque je n'ai fait qu'obéir à des ordres? Alors, il y a une sorte de contradiction là, dont on n'arrive pas à se sortir et qui débouche sur une forme d'amnésie officielle du côté politique, alors que la société japonaise, la société civile japonaise, elle a pu prendre, en tout cas pour certains, la mesure de ce qui s'était passé.
Alors si nous réfléchissons, Pierre-François Souiri, comme nous le faisons ce matin, à l'éventuelle résurgence d'une tentation militariste, il faut naturellement se porter au moment de la défaite, de ce qu'on a appelé le shogunat MacArthur, la domination du général MacArthur sur le Japon pendant quelques années, et le choix notamment d'avoir préservé le Mikado. Ce n'est peut-être pas le mot juste.
On dit plutôt le Tenno, oui. Mikado, c'est une manière un peu archaïque de désigner l'empereur, qui était peu utilisé à l'époque.
Mon japonais est un peu archaïque.
On vous pardonne.
Pour poser ce moment-là, le mieux est d'écouter, comme si souvent, les actualités françaises qui étaient projetées dans toutes nos salles de cinéma. C'est une description de ce qui s'est passé sur les côtes du Japon, et d'abord à bord du cuirassé Missouri, où le pays a signé sa défaite. C'est une archive du 28 septembre 1945.
C'est le 2 septembre au matin. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, accueilli par l'amiral Nimitz et accompagné des représentants de toutes les armées alliées, vient à peine de monter quand accoste une vedette. Cette vedette, c'est la défaite du Japon. Voici ceux qui vont signer la capitulation totale des nazis d'Extrême-Orient. Autour de M. Shigemitsu, nouveau ministre des Affaires étrangères, les jaquettes coudoient les uniformes. Le Japon militariste a vraiment dû céder. Un pont de navire, MacArthur, un papier consigne, le groupe des vaincus, c'est tout le spectacle dans sa nudité et sa grandeur. Et là-dessus, le silence. Car le silence seul convient au geste qui marque le destin des nations. Et puis MacArthur signe, avec 6 porte-plumes dont il fera don à 6 de ses généraux. MacArthur signe. Peut-être se rappelle-t-il les noms de Pearl Harbor, de Guam, de Corregidor. Peut-être se rappelle-t-il qu'un jour il a quitté les Philippines et qu'il a dit « Je reviendrai ». Et l'amiral Nimitz signe au nom des forces américaines. Et le général Yung Chang au nom de la Chine. Et l'amiral Fraser au nom de la Grande-Bretagne. Et le général Derevyanko au nom de la Russie. Et le général Leclerc au nom de la France. Au nom de la France qui a sa place dans la victoire comme elle l'a eue dans le combat. 10 minutes ont suffi, et tout à coup des nuées d'avions couvrent le ciel, convergent vers la terre japonaise que ne protège plus la montagne des dieux, le mont Fujiyama. Et tout à coup, une flotte de 400 navires fonce à toute vapeur vers les côtes. Le Missouri, qui porte l'amiral Halsey, chef de la flotte de débarquement, franchit le détroit d'Uraga. De tous côtés se dessinent les épaves de ce qui fut la formidable flotte nippone. L'épave gigantesque du Nagato, cuirassée de 35 000 tonnes, domine ce cimetière marin. Touché le 18 juillet par un bombardement aérien, le géant, depuis cette date, n'est plus qu'une redoute flottante. À la même heure, des centaines de péniches de débarquement cinglent vers toutes les plages de la baie de Tokyo. L'arme au bras, les Américains foulent le sol ennemi. Et le premier drapeau américain monte dans le ciel du Japon.
Le Japon militariste a vraiment dû céder. Voilà ce qui est au cœur de ce... de cette archive, Pierre-François Souéry.
Oui, alors, bien entendu, la défaite est terrible pour le Japon, qui, dans un état d'effondrement, de sidération profond, quand les Américains débarquent début septembre dans les villes japonaises, et je ne parle même pas des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc le Japon est dans un état de sidération, mais les forces conservatrices qui étaient au pouvoir sont toujours là. Et c'est avec ces forces conservatrices que MacArthur est obligé de négocier pour tenir le pays.
Il a pourtant fait un grand procès qui est l'équivalent du procès de Nuremberg, le procès de Tokyo, qui était destiné à purger les cercles gouvernementaux.
Oui, alors, au bout du compte, évidemment, plusieurs centaines de personnes ont été jugés, pas simplement dans le cadre du tribunal de Tokyo d'ailleurs, mais dans des tribunaux qui se sont constitués un peu partout dans les anciennes colonies japonaises. Mais au bout du compte, le tribunal de Tokyo a jugé une trentaine de personnes et en a exécuté quelques-unes. Mais
on s'en est tenu là pratiquement.
C'est-à-dire que l'empereur, comme je disais tout à l'heure, l'empereur, lui, n'a pas été inquiété. Et c'était même une des conditions de la rédaction de la Constitution. Parce que c'est assez curieux, cette histoire de Constitution. MacArthur était un républicain, disons conservateur, mais le staff qui était avec lui était un staff de jeunes gens sortis des grandes écoles, des grandes universités américaines, qui, eux, étaient dans la lignée, en quelque sorte, de Roosevelt et du New Deal, et qui avaient l'idée un peu utopique qu'on allait faire table rase de ce qui s'était passé au Japon jusqu'alors et créer une sorte de démocratie comme on n'en avait jamais vu au monde. C'est un projet assez utopiste d'ailleurs, et ce qui est assez curieux, c'est que les propositions qui ont été faites par ces jeunes démocrates, en quelque sorte, qui ont rédigé un projet de constitution, un premier projet de constitution, a été fait parce que les conservateurs à qui on avait demandé de rédiger une nouvelle constitution ne le faisaient pas, ou plutôt ils reprenaient l'ancienne constitution impériale de 1889, En la modifiant à la marge, et les Américains ont dit, les jeunes Américains donc de ce staff de MacArthur ont dit, écoutez, on va la faire nous-mêmes parce que vous êtes incapables de la faire, et ce qui risque de se produire, c'est qu'on va être obligé de juger l'empereur à notre tour si vous ne cédez pas.
Et le fameux article 9 de la Constitution.
Donc ils ont imposé ce fameux article 9 de la Constitution
qui bannit toute guerre.
Voilà, qui bannit toute guerre. Et qui avait évidemment pour objectif de faire céder. Évidemment, l'armée japonaise était vaincue, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là, elle ne pouvait même pas se rebâtir, se reconstruire, puisque c'était constitutionnellement impossible.
Je vous lis l'article 9. Je cite « Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et sur l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation » ainsi qu'à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes ou tout autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l'État n'est pas reconnu. Fin de citation. Il n'y a pas d'équivalent dans aucune constitution du monde.
C'est absolument unique dans le monde. Le peuple japonais en 1946-47, apprenant quelles étaient donc les nouvelles formules qui étaient utilisées dans cette constitution nouvelle, finalement était plutôt d'accord. Parce que je disais tout à l'heure que le peuple japonais était dans un état de sidération, mais il s'est très vite reconstitué dans la société japonaise, des syndicats, des partis politiques, et la liberté d'expression, même si elle était censurée partiellement par les Américains, était à peu près garantie. Donc il y a eu à ce moment-là une sorte de revirement, en quelque sorte, pour une grande partie de la population qui tirait comme conclusion de toute cette affaire « plus jamais ça ». Et quand on entendait « plus jamais ça », ça veut dire « plus jamais le militarisme ». Donc finalement, cette constitution avait l'approbation d'une grande partie de la population qui, à vrai dire, est devenue massivement pacifiste dans l'après-guerre.
Un point qui a étonné les Américains eux-mêmes, arrivant dans le...
Parce que, enfin, pour le dire autrement, MacArthur et ses troupes s'attendaient à ce que des snipers ou des soldats de l'armée japonaise ou même des civils leur fassent une guerre lorsqu'ils débarqueraient au Japon.
Et des donc, partisans, comme on disait.
Une sorte de partisans, et puis il n'en a rien été. Au contraire, même les Japonais, assez vite, se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt à collaborer avec les Américains pour reconstruire le pays.
Et on a vu assez vite se dessiner l'idée qu'un nationalisme économique, un patriotisme économique pourrait prendre la place du nationalisme militariste.
Alors ça, c'est surtout après la guerre de Corée. La guerre de Corée a servi en quelque sorte de tremplin pour le redémarrage de l'économie japonaise. Et dans les années 60, l'économie japonaise a connu une expansion considérable. Puisque aux alentours de 1967, 68, 69, le Japon, en termes de revenu national, de PNB, PIB, est à peu près à l'équivalent des grandes puissances occidentales de l'époque, à savoir, pas les États-Unis bien sûr, mais l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Et donc se reconstruit. Et d'une certaine façon, certains nationalistes japonais ont pu expliquer à cette époque que le Japon avait peut-être perdu la guerre, mais il était en train de gagner sur le plan militaire, mais qu'il était en train de la gagner sur le plan économique.
Quant à l'atmosphère qui a pu être celle des premières années d'après la défaite, rien n'est mieux que de vous faire, c'est souvent un bon principe, écouter une chanson que je vous demanderai de nous traduire, au moins pour une part naturellement, Pierre-François Souiri. Ça s'appelle « Les montagnes vertes », une chanson de 1949, interprétée par Kobe Ishiro et Ayoma Kazuko, des chanteurs japonais que vous connaissez sûrement, que notre public connaît sûrement.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jamenet.
青い山脈雪割り桜空空の果て今日も我らの夢を呼ぶ来る夢よさよなら寂しい夢よさよなら バラ色雲へ憧れの旅のために取り戻く雨に濡れてる焼け跡の名もない花も降り仰ぐ 青い山脈輝く峰の懐かしさ見れば涙がまた滲む父も夢見た母も見た
Abimo kake no sono hake no Aoi sanmyaku Midori no tani e Tabi wo yuku Watai ware ra ni Kane e ga naru
Les Montagnes Vertes 1949, apparemment peu de militarisme dans cette chanson Pierre-François Souris, mais peut-être néanmoins quelques mémoires.
Oui, alors c'est une chanson qui a été un des grands, des grandes chansons les plus populaires de cette année-là, de 1949, et puis dans les années qui ont suivi aussi, donc Aoi San Myaku, donc les montagnes qui verdissent au printemps. Donc le refrain, donc c'est la neige qui fond, les fleurs du printemps qui reviennent et le rêve de bonheur que ça inspire. Et dans les couplets, on entend cette sorte de rengaine qui est assez intéressante, qui dit en gros au revoir mes vieux vêtements, sous-entendu que je porte depuis la guerre puisque je n'ai pas eu pu m'en acheter de nouveau. Ces vêtements sont pleins de rêves tristes, disent-ils, puisqu'il y a deux chanteurs, un homme et une femme. Et il continue en disant ces vêtements mouillés de pluie, pleins de cendres, adieu ces vieux vêtements. Donc plein de cendres parce que...
C'est la métaphore des guerres d'autrefois
bien et sûr,
de leurs effets ravageurs.
La métaphore des bombardements américains, les cendres suite aux incendies massifs qui ont détruit les villes japonaises. Et donc, ça reprend, je pleure en regardant ces montagnes qui reverdissent. En gros, l'avenir est devant nous, à condition d'oublier le passé.
1949, on est 3 ans avant le traité de San Francisco, qui résulte directement de la guerre froide et de la guerre de Corée, et qui amène les Américains à faire évoluer leur politique japonaise, ce qui est important du point de vue qui nous occupe.
Oui, alors en 1952, au traité de San Francisco, le Japon redevient un pays indépendant, donc c'est la fin officielle de l'occupation américaine. Le pays est reconnu par la plupart des pays occidentaux, mais les pays de l'Est de l'époque ne reconnaissent pas le Japon. Ils le reconnaîtront plus tard, petit à petit. Des liens diplomatiques seront renoués avec la Russie, puis avec la Chine communiste dans les années qui suivent. Mais le Japon peut désormais retrouver son indépendance.
Avec l'esquisse du commencement d'un réarmement.
Avec l'esquisse d'un début de réarmement lié au fait que les Américains eux-mêmes ont autorisé les Japonais à constituer ce qu'on appelle des forces d'autodéfense.
Ils l'ont souhaité.
Ils l'ont souhaité au moment de la guerre de Corée, qui permettrait donc une sorte d'armée qui n'avait pas le titre d'armée, hein, force d'autodéfense, jeitai en japonais, et qui avait pour vocation donc de défendre le pays, mais uniquement dans le cadre d'une guerre, si elle devait éclater, d'une guerre défensive.
C'est toujours le cas aujourd'hui, ces forces sont toujours défensives, et c'est toujours à un niveau, par rapport au produit intérieur brut, qui est assez faible. Je vois que c'est 1%, alors que en France, nous ne sommes pas très loin de 2%, la Grande-Bretagne n'est pas très loin de 2%, on rejoint les pays d'Europe qui sont les moins armés.
Sauf que 1% du PNB japonais, c'est plus que 2% du PNB français, si je puis dire. C'est un fait que le gouvernement d'Abe, aujourd'hui, cherche à revenir sur ce fameux article 9 dont nous parlions tout à l'heure.
Et on est là au cœur de la question d'une résurgence possible du militarisme.
Voilà, c'est-à-dire que ce gouvernement donc conservateur cherche à revenir sur cette affaire avec deux arguments. Le premier, le monde a évolué, ce qui en soi n'est pas faux, bien entendu. Et le second, c'est que c'est une constitution qui nous a été imposée par l'étranger. On ne dit jamais par les Américains, on dit par l'étranger. Et c'est un argument qui est évidemment très contestable, parce que si dans les faits, ce sont bien les Américains qui ont imposé cet article 9... Eh bien, on peut constater que depuis, la population japonaise y a adhéré largement. Et c'est vrai que ça aurait pu être pour les Japonais qui avaient été victimes d'un bombardement nucléaire, ça aurait pu leur permettre de se poser dans le concert des nations comme une puissance particulière qui avait vécu l'expérience atomique et qui en même temps décrétait le fait que l'État n'avait pas le droit de faire la guerre. Donc le pacifisme comme idéologie officielle de l'État. Ça aurait pu poser le Japon comme une espèce de Suisse, mais alors beaucoup plus puissante sur le plan économique, qui aurait pu effectivement jouer un rôle entre l'Est et l'Ouest à cette époque-là, mais les gouvernements conservateurs ont choisi évidemment l'alliance américaine et donc le traité de sécurité nippo-américain en 1960.
Oui, ça aurait été la gloire d'un témoignage au lieu de l'exemple de militarisme exacerbé.
Voilà.
Brusque mutation.
Le Japon aurait pu.
Retournement absolu.
Voilà, un retournement absolu. Certains d'ailleurs, hommes politiques ou commentateurs politiques du Japon le souhaitaient à cette époque-là, mais ils étaient très minoritaires. Et donc, pas inintéressant de constater que celui qui a fait le plus pour obtenir cette alliance, le fait que le Japon s'aligne sur les États-Unis donc et ne choisisse pas la neutralité, c'est Kishi Nobusuke qui fut le Premier ministre entre 1957 et 1960 et qui n'est autre que le grand-père d'Abe Shinzo.
On peut préciser en termes juridiques, en termes constitutionnels, qu'il y a peu de chances qu'à terme proche l'article 9 soit aboli, puisqu'il faudrait une majorité qualifiée des deux chambres, si j'ai bien compris, pour le changer, et ensuite un référendum populaire, ce qui pose la question de l'évolution de l'opinion publique.
Voilà, alors c'est là que effectivement il y a un problème, parce que les deux tiers des voix dans les deux chambres réunies, ils l'ont obtenu aux dernières élections. Donc pour la première fois, les députés ou sénateurs, ou l'équivalent des sénateurs qui ont été élus, sont favorables ou se disent favorables peut-être à une réforme de la Constitution. Le problème, c'est que après, il faut effectivement faire passer la chose devant le peuple. Et que selon tous les sondages, malgré le fait que les Japonais élisent des députés conservateurs qui sont favorables à cette révision, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas favorables actuellement, hein, peut-être ça va changer dans les mois ou les années qui viennent, mais pour l'instant, ne sont pas favorables à une révision de la Constitution. Ce qui fait que même si le gouvernement a les deux tiers des voix, il est possible qu'il n'ait pas les 50% qui lui permettraient de faire cette réforme. Il n'est pas non plus tout à fait inutile de remarquer qu'au lendemain même de la victoire électorale d'Abe, qui lui permettait donc d'avoir les deux tiers des voix dans les deux chambres, l'empereur a annoncé qu'il allait démissionner. Ce qui était une manière de dire, alors évidemment, c'est une interprétation de ma part, hein, je n'ai pas de preuves formelles, mais c'était une manière de dire, votre révision de la Constitution, vous ne la ferez pas signer à moi.
Et le nouvel empereur ?
Et le nouvel empereur est à peu près sur la même ligne. C'est très, très curieux que cette dynastie impériale, qui depuis Meiji, évidemment, joue dans le sens d'un Japon nationaliste, voire même avant-guerre impérialiste, et depuis l'arrivée du fils de Hirohito, qui avait 13 ans en 1945, et lui, il est farouchement favorable à cette constitution de 1946-47.
Gratitude, après tout, par rapport au tournant qui a perpétué le pouvoir de son père. Puisque vous parlez de l'ère Meiji, il faut maintenant, dans la seconde partie de cette émission consacrée à l'éventuel retour de la tentation militariste au Japon, que nous allions chercher dans le passé, dans la mémoire, d'éventuelles racines de cette tentation. Et sûrement commencer par 1868, la fameuse restauration Meiji, que vous avez beaucoup étudié dans votre histoire du Japon et ailleurs, et qui aujourd'hui, dans l'historiographie japonaise, a quelque peu changé d'apparence. Vous allez nous dire tout ça sous l'angle qui est le nôtre. 1868, l'ère Meiji, pour le 100e anniversaire de l'ouverture du Japon, donc de l'ère Meiji, Interactualité, le 23 octobre 1968, rendait compte de la façon suivante des festivités qui avaient marqué cette date.
Il y a 100 ans, le Japon féodal des daimyos et des samouraïs décidait brusquement, au contraire de la Chine impériale, d'ouvrir ses portes aux étrangers blancs et d'envoyer ses fils s'instruire dans leurs écoles. Avec la chute du shogun et le rétablissement de l'autorité du divin empereur Meiji, naissait le Japon moderne, vainqueur 30 ans plus tard de la Russie des tsars. Une cérémonie officielle a marqué aujourd'hui ce chapitre capital de l'histoire de l'Asie et du monde. De Tokyo, Jean-Marc Potiez.
Cette voix est celle du Premier ministre du Japon, M. Sato, qui célébrait aujourd'hui, en présence de l'empereur, un anniversaire officiel, l'anniversaire des 100 ans du Japon moderne. 1868, le Japon moderne a 100 ans, Et le gouvernement de M. Sato tenait à célébrer cet anniversaire avec éclat.
Jean-Marc Potiez, la rapidité avec laquelle le Japon s'est adapté aux méthodes occidentales tient un peu du miracle.
Comme l'a dit le Premier ministre dans son discours, le Japon a réalisé en 100 ans ce que les autres pays ont réalisé en 3 fois plus de temps.
Le Japon est depuis sa défaite liée aux États-Unis par un traité de sécurité militaire. Ce traité, le Japon de 1968, a-t-il l'intention de le maintenir, Jean-Marc Potiez ?
On ne peut prévoir quel sera le choix du Japon, qui dépendra évidemment du jeu des pressions externes ou internes, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Japon est capable, techniquement, de fabriquer la bombe, et sa force d'autodéfense a beau être réduite en effectif, elle est puissante en équipement et en puissance de feu.
Pierre-François Swiri, ce Sato, ce Premier ministre Eisaku Sato, il est aussi lié familialement au Premier ministre Abe. Le Japon ne déteste pas les dynasties apparemment en politique.
Ah oui, tout à fait. Il s'agit d'une dynastie, il n'y a pas d'autre mot. Sato Eisaku, qui était donc qui fut le Premier ministre de 64 à 1972 au Führer, était le demi-frère en fait de Kishi Nobusuke dont on parlait à l'instant, et donc de ce fait est lié familialement avec l'actuel Abe Shinzo, Premier ministre du Japon. Donc,
son demi-grand-oncle en somme.
Quelque chose comme ça, oui. Et donc on retrouve des continuités, dans l'appareil politique japonais, avant-guerre, pendant la guerre, après la guerre, qui sont tout à fait étonnantes jusqu'à aujourd'hui.
Alors quelle est la mémoire de Meiji dans cette atmosphère spécifique?
Alors Meiji, c'est assez particulier parce que, d'abord en japonais, Meiji Shin, qui est donc l'appellation officielle de cette affaire, signifie la révolution Meiji.
Il faut nous rappeler ce qui s'est passé d'un mot.
Alors Meiji, donc ça se passe en 1868, donc fin de l'ancien régime Tokugawa, restauration effectivement du pouvoir impérial.
C'était les shoguns Tokugawa.
Les shoguns Tokugawa qui remettent leur pouvoir à l'empereur.
Qui était jusque-là un pantin.
Quelque chose comme ça. Et donc l'empereur est mis au centre du dispositif, bien que Meiji lui-même n'ayant à l'époque que 15 ans, c'est pas lui évidemment qui s'occupait de la politique réelle. Mais il a été mis en quelque sorte, ils ont constitué à partir de là une figure tout à fait nouvelle du monarque qui n'existait pas dans le Japon traditionnel. D'une certaine façon, on est face à un processus donc d'invention de la tradition. Et par ailleurs, dans les années qui suivent Meiji, cette restauration impériale de 68, ont lieu toute une série de réformes radicales, comme la suppression des fiefs et donc des seigneurs.
Le système féodal est
mis à bas.
Centralisation
du pays. Suppression des anciens statuts sociaux de l'époque précédente, donc des ordres, si vous voulez, des ordres féodaux. Donc toute une série de réformes radicales qui d'une certaine façon font penser bien sûr à ce qui s'est passé par exemple en France en 1789 sans cette irruption populaire
et sans l'assaut de pays voisins
comme
dans notre cas.
Voilà, tout à fait. Donc on a une situation à la fois semblable et différente, mais ça c'est assez fréquent en histoire. Et du coup, le Japon, à partir de là, s'engage dans la constitution, dans la création d'un État-nation qui deviendra, à partir des années 1890, colonisateur, expansionniste, voire impérialiste.
Donc, qu'y a-t-il de belligène dans cette évolution? Alors, et qu'est-ce qui peut, au contraire, peser dans le sens d'un pacifisme? On voit apparaître une idéologie nationaliste, on nous dit que ça s'appelle le Kokutai.
Alors, cette idéologie nationaliste se met en place petit à petit, plutôt d'ailleurs à la fin du siècle, après la proclamation d'une constitution. Parce qu'il y a en fait deux dates importantes à l'époque Meiji. Il y a 1868, on vient d'en parler, et puis il y a 1889, proclamation de cette constitution. Le Japon est le premier pays non européen à se doter d'une constitution. Or, cette constitution est une constitution extrêmement autoritaire.
Elle ne porte pas de mention pacifiste comme celle que...
Pas du tout, pas du tout, à la différence de celle de 46-47. Celle de 89 est une constitution donc extrêmement autoritaire, où l'empereur est placé au centre du dispositif. D'ailleurs, le Japon change de nom, hein, puisqu'il devient désormais l'Empire du Grand Japon. Et... à partir de ce moment-là, le nationalisme, dans sa forme japonaise, devient... en quelque sorte l'idéologie officielle du régime, autour de cette notion de Kokutai qui renvoie au corps de la nation,
avec ce texte important du rescrit impérial aux soldats de 1882, qui, du point de vue d'un nationalisme, d'un militarisme, n'est pas sans portée.
Oui. Alors, il y a plusieurs rescrits qui ont été rédigés au cours de cette époque. Il y a l'admonestation aux soldats, en effet, de 1882. Il y en a une autre aux écoliers du Japon.
En 90.
Qui date de 90 et qui, elle aussi, est tout à fait importante. C'est un des textes canoniques, si je puis dire, du nationalisme japonais, et qui tourne autour de cette idée de kokutai. Alors, qu'est-ce que c'est que le kokutai au-delà des mots? C'est l'idée que le Japon est un pays différent des autres pays dans le monde parce que lui, il est dirigé par une dynastie impériale dont les ancêtres sont divins et qui règne sur le pays depuis, alors disait-on à l'époque, la date officielle de fondation de l'Empire, 660 avant notre ère. C'est d'ailleurs pour ça que, en 1940, on fêtait le 2600e anniversaire de cette fondation et que donc Tokyo avait demandé à ce que les Jeux Olympiques, après ceux de Berlin en 1936, aient lieu à Tokyo en 1940. Ce qui n'a pas pu se faire pour des raisons évidemment liées à la guerre. Mais il y a cette idée que cette dynastie impériale qui prône en fait le développement de la modernité au Japon s'inscrit en même temps dans une tradition immémoriale, voire divine. Personne au Japon sincèrement ne croyait cela. On n'est pas dans une nation de croyants. C'est ça qui est assez étonnant. Et donc quand l'empereur a annoncé en 1er janvier 1946 que contrairement à tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent, il n'était pas le descendant de la déesse du soleil, puisqu'il n'était pas une divinité vivante, les Japonais ne sont pas tombés de leur table, de leur chaise. C'est très très curieux cette idéologie japonaise qui à la fois impose un certain nombre de vérité auxquelles personne ne croit vraiment, mais ils vont quand même mourir pour ça, donc c'est pas rien. Et en même temps, personne n'y croit au sens où on a la foi de croyant. C'est très très curieux.
Eh bien, je ne prétends pas éclairer cette ambiguïté ou cette ambivalence, mais peut-être nourrir la réflexion en vous faisant écouter une seconde chanson, Pierre-François Souéry. C'est l'hymne non officiel de la marine impériale dans les années 30. La tonalité est tout à fait différente des Montagnes Vertes de 1949, vous allez voir.
Thank you.
sans qu'on comprenne les paroles, Pierre-François Souiré, on a l'impression que cette chanson, cet hymne, est plus douloureux que Bravache.
Ah oui, c'est pas du tout un chant de guerre au sens strict du terme. Hein. C'est une chanson qui reprend un poème du Manyoshu du 8e siècle, qui dit à peu près « si je dois partir en mer et que j'y meurs, eh bien mon corps se décomposera au fond de l'océan ». Et si je dois partir sur terre et mourir sur une montagne, mon corps nourrira les herbes et la végétation. Enfin, quelque chose comme ça, en plus poétique.
Beaucoup de kamikazes ont chanté ça?
Beaucoup de kamikazes chantaient cet hymne avant de partir, puisque les kamikazes, les pilotes donc japonais, faisaient partie de l'aéronavale. Et cette chanson est intéressante parce que, outre que c'est très beau sur le plan purement poétique, c'est une chanson qui se termine en disant « Et si je meurs, donc, si c'est pour la gloire de l'empereur, alors, quelle importance ?» ou quelque chose comme ça. Et c'est pas du tout une chanson bravage, comme vous disiez à l'instant. C'est au contraire... les gens pleuraient en chantant cette chanson, en référence, bien sûr, à tous leurs proches qui étaient déjà tombés ou qui allaient tomber. Et cette chanson a été interdite, évidemment, par les Américains en 1945, mais dans les tavernes, dans les restaurants, lorsque les anciens soldats de l'armée japonaise se retrouvaient entre eux, souvent ils chantaient cette chanson encore jusque dans les années 60-70.
Et les yeux se mouillent.
Et les yeux se mouillent, oui. C'est pas du tout l'équivalent de la Marseillaise avec ce chant entraînant et guerrier.
Est-ce qu'il reste quelque chose de l'esprit samouraï dans le nationalisme peut-être résurgent d'aujourd'hui? Ou est-ce mythologique?
Bon, je pense qu'on est là dans l'ordre de la mythologie. Les samouraïs en tant que classe sociale ont disparu dans les années 1870. Alors, une partie des codes de guerriers, le Bushido, qui structurait l'idéologie des samouraïs, a été maintenu ou revitalisé par l'armée japonaise, aussi bien au lendemain de la guerre russo-japonaise de 1904-1905 que avant la guerre et pendant la guerre du Pacifique.
Oui, parce que nous n'avons pas assez dit qu'un moment essentiel du patriotisme ou du nationalisme japonais en expansion, ça a été le moment où ils ont d'abord battu la Chine, et ensuite, en 1905, la grande bataille navale de Tsushima défait la Russie. Ça a été un choc en Occident considérable.
Ah, ça a été un choc considérable.
Une immense satisfaction dans l'archipel.
Oui. Oui, parce que en 10 ans, le Japon qui n'avait pas fait la guerre depuis de très nombreuses années, depuis pratiquement la fin du XVIe siècle, est capable de vaincre la Chine qui passait pour la plus grande puissance en Extrême-Orient à l'époque, ce qu'elle n'était pas, mais ça on le savait pas. Et puis 10 ans plus tard, en 1905, donc victoire japonaise sur la Russie, qui est une victoire qui a traumatisé un peu les consciences aussi en Occident, parce que c'était la première fois qu'un pays non blanc était capable de battre militairement un pays blanc. La Russie est un pays blanc, évidemment, avec des armes modernes, parce que c'est ça qui est important, avec une logistique moderne, avec un système d'organisation militaire moderne.
Et dans les manuels d'aujourd'hui dont nous parlait cette jeune femme à laquelle nous avons donné la parole au début de l'émission, c'est encore un sujet de fierté, de nationalisme et peut-être une source un appui pour la tentation militariste résurgente?
Pas vraiment, je dirais. Les choses sont un peu plus complexes que ça, parce que la jeune fille, elle dit...
Comme disent toujours les historiens.
La jeune fille dit qu'on n'apprend pas la guerre dans les manuels scolaires. Alors, dans les manuels scolaires japonais, la guerre est explicitée. Elle n'est pas explicitée en termes de cause. Elle dit voilà comment les choses se sont passées, sans entrer évidemment trop dans les détails. Le problème, c'est que, comme... Dans le système japonais, on enseigne des origines, c'est-à-dire de la préhistoire à nos jours, et que dans les écoles japonaises, comme partout dans le monde, on ne parvient pas à aller au bout du programme à la fin de l'année, on s'arrête en fait, de fait, à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle dans le meilleur des cas. Et comme les professeurs japonais, les enseignants, sont toujours un peu gênés d'enseigner cette période de la Seconde Guerre mondiale, et bien, du coup, on l'enseigne pas.
Est-ce que vous pensez que le fait qu'il s'agisse d'un archipel, d'île, marque ce militarisme à travers les décennies au Japon? J'ai été frappé, comme beaucoup, en visitant le sanctuaire de Yasukuni, de voir quelle était la doctrine qui était portée là et approuvée par conséquent par tous ceux qui y viennent. C'est-à-dire que le Japon a été obligé de faire la guerre sans le souhaiter aucunement, parce qu'il était assiégé. Le sentiment obsidional. Est-ce que ce n'est pas un des traits caractéristiques de cet esprit japonais?
Alors, c'est effectivement un des caractères centraux de la propagande, je dirais, nationaliste de la guerre et même de l'après-guerre, dans lequel on expliquait que cette guerre n'avait pas été voulue par les Japonais, puisque les Japonais n'attaquent jamais, ils se défendent, même quand ils projettent leurs armées sur le sol chinois ou le sol mandchou. Ils ne font que se défendre. Le Japon est assiégé avec au nord une Russie soviétique qui lui est hostile, à l'ouest une Chine qui tente de se reconstituer en tant qu'État national et qui inquiète beaucoup le Japon. On le voit aujourd'hui maintenant que la Chine est redevenue une grande puissance économique, à quel point les Japonais sont inquiets. À l'ouest, la puissance américaine qui domine le Pacifique et qui empêche d'une certaine façon le Japon de s'étendre, on l'a vu, à propos du fameux congrès de Washington en 1922. Et puis, au sud, finalement, le ventre mou. Et d'une certaine façon, l'expansion va se faire d'abord vers le sud. Mais c'est vrai qu'on est dans le cadre d'une mentalité d'assiégé, d'une mentalité d'encerclé. Et d'une certaine façon, cette mentalité va être très importante à la fois dans le cadre de la guerre, mais aussi dans l'après-guerre, dans la reconstruction idéologique du Japon, dans la mesure où le Japon se considère comme un pays différent du reste du monde. Et cette différence, elle s'explique essentiellement par le fait qu'ils sont des insulaires.
Cet état d'esprit, on le retrouve dans une chronique hebdomadaire qui date de l'extrême fin du régime de Vichy en France. Je vais vous la donner parce qu'on y voit pénétrer la propagande, l'idéologie japonaise qui va exactement dans ce sens et à laquelle les journalistes de l'occupation font écho de la manière qui suit. Le Japon dans le monde, émission Nippon, 22 mai 1944.
Merci pour vous, notre chronique hebdomadaire. Le Japon dans le monde.
À peine la lutte avait-elle cessé aux Philippines, en Malaisie ou dans l'un ou l'autre des territoires soustraits à la férule anglo-saxonne, que les hommes d'État nippons s'efforçaient de les incorporer dans le nouveau système de prospérité asiatique. Sur la façon dont les Japonais conçoivent cette mission, quelques mots s'imposent. La guerre que mènent les troupes du Tenno n'est pas une simple guerre de domination. Le chef du gouvernement nippon, le général Tojo, l'a répété récemment encore. Le Japon vise plus loin et plus haut. Il veut s'efforcer d'obtenir, pour tous les habitants de l'extrême-orient, des conditions de vie acceptables, honorables, instaurer un ordre économique qui ne soit plus celui des esclavagistes. Depuis de nombreuses années, des efforts suivis ont été déployés par les hommes d'État nippons pour parvenir pacifiquement à ce résultat. L'année 1922 demeure à cet égard marquée d'une double pierre noire au calendrier de l'histoire japonaise. Deux traités signés cette année-là à Washington tentent d'évincer une fois pour toutes le Japon des territoires où il a des intérêts et d'assurer la suprématie anglo-saxonne dans le Pacifique. Le second est le fameux pacte des neuf puissances qui, sous couleur de proclamer le principe de la libre concurrence pour tous en Chine, assurait en réalité la domination des trusts anglo-saxons. C'est dans ces conditions que le peuple nippon se reconnut la mission de délivrer les peuples asiatiques. La guerre de Chine n'a pas d'autre raison d'être que de faire tomber les terribles barrières douanières qui paralysent toute la vie économique en Extrême-Orient. Le parrainage accordé par Tokyo à la création de la Chine nationale de Wang Qingwei indique éloquemment que le Japon ne poursuit pas certains rêves insatiables que d'aucuns lui prêtent. La restitution des concessions nippones de Chine au gouvernement national chinois, la promesse de libération faite au peuple des Philippines et de Birmanie notamment, montre que c'est vers la création d'un ordre nouveau équitable que s'achemine le Japon en marge de sa lutte actuelle.
Efficacité de la propagande japonaise jusqu'à l'extrême.
L'efficacité, notamment vis-à-vis des peuples d'Asie colonisés par les Blancs, par les Européens, et envahis par le Japon à partir de 1940-41.
Ça les aurait surpris d'entendre cela, eux qui étaient opprimés de la façon qu'nous savons, mais ça n'a pas été, me semble-t-il, sans importance par la suite, y compris du point de vue de la décolonisation.
Mais absolument, parce que la décolonisation, d'abord, elle vient d'Asie, avant de venir d'Afrique et d'ailleurs. C'est un mouvement qui a été enclenché par l'Asie et qui est lié en grande partie à l'occupation des anciennes colonies occidentales par les armées japonaises.
Notamment notre Indochine.
Et lorsque les Japonais vaincus ont été obligés de partir, les Occidentaux, qui n'avaient pas toujours très bien compris ce qui se passait, sont revenus dans ces pays anciennement colonisés pour rétablir le régime colonial d'avant l'arrivée des Japonais. Et c'est là que les choses ont commencé à s'envenimer, parce que les populations asiatiques, alors c'est vrai, de l'Indonésie, de la Malaisie, même des Philippines, et puis bien sûr de l'ancienne Indochine française, se sont d'une certaine façon révoltées contre le colonisateur occidental, qui, comme on disait autrefois, n'avait rien appris, rien oublié. Et donc, d'une certaine façon, ça a déclenché le phénomène de décolonisation, qui est une conséquence indirecte et sans doute non voulue de cette idéologie asiatiste japonaise qui était prégnante pendant la guerre.
Alors, je ne voudrais pas, Pierre-François Souiri, que nous terminions cette conversation sur un éventuel retour d'une tentation militariste au Japon, sans marquer que le peuple entier est loin d'en être contaminé, et qu'il y a dans ce pays beaucoup de forces contraires qu'il faut à la fois apprécier et probablement saluer.
L'idée même de reconstituer le Japon comme puissance militaire mondiale, c'est une idée à laquelle une grande partie des Japonais semble hostile.
Ils continuent à préférer que le patriotisme économique ait pris la place de nationalisme.
Oui, et puis il y a quand même cette conscience qui est même chez les plus jeunes, que quand même la guerre fut quand même une expérience épouvantable. La guerre et l'après-guerre d'ailleurs furent une expérience épouvantable, et qu'il n'est pas question de recommencer, de se lancer dans ce genre d'aventure. Ça, c'est une chose. Mais il y a eu aussi, il faudrait quand même le rappeler, au Japon, depuis au moins le 19e siècle et sans doute avant, des mouvements qui se sont battus, des mouvements populaires qui se sont battus pour l'obtention, alors je pense, de la liberté. Je pense, par exemple, dans les années 1880, à ce mouvement pour la liberté et droit du peuple, qui d'ailleurs a contraint le gouvernement à proclamer une constitution, même si c'est pas tout à fait la constitution qu'ils attendaient. Mais enfin, il y a eu un mouvement associatif considérable à cette époque-là.
Et un féminisme libre par rapport aux traditions occidentales.
Il y a eu un développement d'un féminisme dans les années 1910 qui est tout à fait important. Un mouvement aussi, mouvement ouvrier, bien entendu, mouvement socialiste aussi, qui ont essayé de se constituer malgré la répression. Et dans les années 1918-1925, le Japon a connu une période qu'on appelle d'ailleurs la démocratie Taisho. Le Taisho, c'était le nom de l'empereur de l'époque, qui est un mouvement qui s'inscrit finalement dans une dynamique assez proche de tous ces mouvements sociaux qui éclatent après la Première Guerre mondiale.
Avant l'arrivée du pouvoir militaire, mais c'est un courant qui a cheminé en profondeur et qu'on voit souvent, heureusement, ressurgir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Vous nous avez donné récemment, Pierre-François Souiri, un livre important qui s'appelle « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui » chez Gallimard, une réflexion sur les spécificités de la modernisation nippone. Nous vous devons également une nouvelle histoire du Japon, paru chez Perrin en 2010, et puis un ouvrage consacré aux samouraïs, les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs, paru chez Flammarion en 2017. Michael Lucken est l'auteur d'un très utile ouvrage intitulé « Les Japonais et la guerre », Fayard 2013. Telle était donc notre contribution aux journées consacrées par France Culture au Japon. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Jean-Michel Bernot à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet, avec comme toujours l'appui précieux de la documentation et de la bibliothèque de Radio France. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi matin, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.